Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Chaque baptisé, malgré ses limites et ses péchés, est le maillon d'une chaîne de transmission de la foi, appelée à porter l'évangile dans le monde. Le pape François est revenu sur la grâce du baptême à l'audience générale et il a cité en exemple le courage des chrétiens du Japon qui ont vécu leur foi dans la clandestinité pendant plus de 2 siècles, compte rendu dès le début de ce magazine. Vous entendrez également le porte-parole des évêques de France. Nous lui avons demandé de réagir à la conférence de presse du président Hollande, Marc. Dans cette émission, nous reviendrons également sur la joie des Haïtiens qui auront bientôt un cardinal, une première pour ce pays éprouvé. Le pape François demande à tous les chrétiens de jouer un rôle actif dans l'évangélisation. Il a renouvelé son appel ce mercredi à l'audience générale Place Saint-Pierre. Le Saint-Père, qui a entamé mercredi dernier un nouveau cycle de catéchèses consacré au sacrement, s'est attardé cette semaine encore sur le baptême. Devant une foule de plus de 20 000 personnes, il a cité l'attitude exemplaire de la petite communauté catholique du Japon, une approche originale et personnelle destinée à encourager ceux qui souffrent en raison de leur foi. Le compte-rendu d'Antonino Gallofaro.
Pour souligner l'importance de la grâce du baptême, le pape François propose un modèle du passé. Il le fait en saluant des chrétiens de Terre Sainte confrontés à de nombreuses difficultés. Au XVIIe siècle, au Japon, la communauté chrétienne a enduré de longues persécutions. Il y a eu de nombreux martyrs, tous les membres du clergé furent déportés. Les chrétiens se replièrent alors dans la clandestinité sans cesser pour autant de prier, de transmettre la flamme de la foi et d'administrer en secret le sacrement du baptême. Quand les missionnaires ont pu retourner au Japon, environ 2 siècles et demi plus tard, des milliers de chrétiens sont sortis de l'ombre. Ces fidèles japonais avaient pu survivre par la grâce de leur baptême.
Si trasmette la grazia.
Par le baptême, a souligné le souverain pontife, la grâce est transmise de génération en génération à l'image d'un fleuve qui irrigue la terre et répand sur le monde la bénédiction de Dieu. Le baptême fait de nous des membres du corps du Christ et il nous fait entrer dans le peuple de Dieu, un peuple en marche dans l'histoire, un peuple de disciples missionnaires, chacun à la place que Dieu a voulu. Cela, a insisté le pape François, vaut pour tous les baptisés, quel que soit leur statut, y compris pour les évêques et pour le pape. Le souverain pontife a par ailleurs insisté sur un point qui lui est cher, la dimension communautaire de notre foi. Il ne s'agit pas d'un cadre ou d'une garniture, cette dimension fait partie intégrante de la vie chrétienne, du témoignage et de l'évangélisation. La foi chrétienne naît et vit dans l'Église, personne ne peut se sauver tout seul. Nous sommes une communauté de croyants dans laquelle chacun, malgré sa faiblesse, et canal de la grâce pour les autres.
Un groupe de pèlerins venus de Jordanie et de Terre Sainte était donc présent à l'audience générale. Le Saint-Père les a exhortés à vivre les difficultés et les persécutions avec confiance et espérance, amour et respect. Quand elles sont vécues dans un tel état d'esprit, elles purifient la foi et la fortifient. Le souverain pontife a par ailleurs salué les Dragons d'Aoste, un régiment qui a prêté secours aux immigrés de Lampedusa. Dimanche prochain, journée mondiale des migrants et des réfugiés, le pape François visitera une paroisse romaine proche de la gare Termini dans le centre-ville. À cette occasion, il rencontrera également une centaine de jeunes réfugiés et 60 SDF. La paroisse du Sacré-Cœur vient en aide à quelques 400 réfugiés et demandeurs d'asile venus d'une quinzaine de pays comme la Somalie, l'Irak, le Congo, le Soudan, le Pakistan ou encore la Syrie. Le 1er février, dans la salle Paul VI, le Saint-Père recevra en audience quelques 10 000 membres du chemin néo-catéchuménal. À cette occasion, il bénira solennellement 75 familles qui ont accepté de partir en mission. Au sein de ce mouvement, chaque mission est généralement composée de 4 familles, accompagnées d'un prêtre, d'un séminariste et de 2 femmes célibataires. Actuellement, 230 familles sont présentes dans 52 villes dans le cadre de la mission Agentes. « Au cours de la conférence de presse donnée ce mardi à Paris, le chef de l'État français a annoncé un projet de loi sur la fin de vie, soulignant la nécessité de bénéficier d'une assistance médicalisée pour permettre de terminer sa vie dans la dignité. S'achemine-t-on vers une légalisation de l'euthanasie ? Proposition de campagne de François Hollande, ce sujet sensible se heurte à de nombreux avis contraires. Quoi qu'il en soit, rarement lors d'une conférence de presse à l'Élysée, autant de questions concernant l'Église ou la vie des catholiques français n'ont été abordées. Le président Hollande a ainsi dénoncé les atteintes à la religion et notamment les actes antichrétiens. Nous avons joint Mgr Bernard Potvin. Il nous livre son sentiment suite à cette intervention du président français.
Les paroles du président étaient très attendues par les catholiques et par les chrétiens dans leur ensemble. Vous savez que les catholiques et les chrétiens sont très mobilisés quand on porte atteinte à nos amis juifs et musulmans dans leur religion, dans leur pratique. Nous sommes très solidaires et il y avait une attente très forte de la part des catholiques à ce qu'une certaine équité leur soit rendue. Et je crois que ces paroles vont compter. Évidemment, il faudra qu'elles soient suivies aussi d'actes concrets quant à, après à une décision plus précise, parfois des répressions contre certains vandalismes, contre certaines atteintes. Mais les catholiques, je crois, attendaient qu'on dise que toute atteinte à quelque religion que ce soit doit être condamné par l'État. C'est la responsabilité de l'État. Et ce qui me semble important, c'est que hier, dans la parole que tenait le chef de l'État, il y avait un sens, justement, de ce que doit être la laïcité. Et j'espère qu'au-delà de ce discours, eh bien, ce sera concret pour toutes les sensibilités religieuses. La vraie laïcité doit être respectueuse de toutes les confessions. Nous sommes au combat solidaire quand les autres religions sont agressées. Et il était normal que la religion catholique aussi entende cela hier, que tous les chrétiens l'entendent, de la part du président de la République.
Concernant précisément la laïcité, peut-on lire dans ce discours une approche plus pragmatique ? Le président Nicolas Sarkozy avait développé le concept de laïcité positive. François Hollande est-il en train de développer la laïcité pragmatique ?
Cette part de discours est sans doute plus pragmatique, mais tout ce qui est vécu en ce moment sur la laïcité ne se résume pas à ce discours. Il y a d'autres points qui, eux, demeurent préoccupants. Il y a encore, ça et là, parfois du laïcisme, une incompréhension, une non-écoute. Et donc, les religions, d'ailleurs pas que la religion chrétienne, resteront vigilantes. Ce discours est venu rééquilibrer les choses, je le crois, c'était nécessaire, mais tout n'est quand même pas inclus non plus là-dedans. Je pense que il est important de se dire que les catholiques veulent une relation paisible, constructive. Le climat dans cet ensemble qui est porté par l'Église catholique, c'est vraiment un climat de contribution à la laïcité. Mais il faut continuer à lutter ça et là contre des durcissements laïcistes. Je prends un simple exemple, la question des financements de l'enseignement catholique supérieur ou concernant quelques conceptions de la laïcité dans les questions scolaires ou dans les aumôneries d'hôpitaux ou dans d'autres domaines où il y a encore beaucoup à dire et beaucoup à progresser. Donc un discours marquant, un discours intéressant, important, mais encore beaucoup de progrès à accomplir.
Lors de cette conférence de presse, le président François Hollande a annoncé un projet de loi concernant la fin de vie, tout en affirmant vouloir maintenir une ligne claire. Il a dit vouloir trouver un consensus. C'est en quelque sorte une prise de conscience, une main tendue aux catholiques. Beaucoup se sont dit déçus, incompris cette année concernant de nombreuses questions et en particulier le mariage pour tous.
Nous serons très vigilants dans les semaines qui viennent. Les communautés religieuses seront consultées. Nous exprimerons à nouveau notre avis. Nous serons vigilants parce que comment décrypter ce qui a été dit hier ? De quoi s'agit-il ? Le mot euthanasie n'est pas prononcé, le mot suicide assisté ne l'est pas, mais de quoi s'agira-t-il ? Quelles seront ces conditions strictes ? De quoi va-t-il s'agir ? Vers quoi allons-nous ? Nous serons vigilants et nous exprimerons bien sûr notre point de vue dans les consultations à venir.
François Hollande a également évoqué sa visite au Vatican le 24 janvier prochain et sa rencontre avec le pape François. Il a déclaré « le pape peut être utile sur plusieurs sujets ». Comment avez-vous interprété ces paroles ?
Ben, quand on entend l'éloge que fait le président Obama ou d'autres chefs d'État sur la planète, c'est, me semble-t-il, la moindre des choses qu'il soit dit par la République française l'éminente valeur du Saint-Père. dont depuis son élection comme pape, nous pressentons bien tout ce qu'il fait déjà pour la paix dans le monde, pour des actions remarquables qu'il veut vraiment encourager. Alors j'espère vraiment que cette visite qui se déroule dans quelques jours sera une visite fructueuse qui permettra de se parler en vérité pour le bien des nations, pour le bien du monde. C'est le souci qu'exprime notre chef d'État que de rencontrer le pape dans son autorité morale, dans tout ce qu'il incarne. Ça me semble très important. Nous avons des lignes communes à porter. Il y a énormément de préoccupations à travers le monde. Et je sais que le Saint-Père, quand il rencontre un chef d'État, prend toujours très au sérieux et parle avec vérité au nom de la mission qui lui est confiée. Et voilà, je prie beaucoup pour cette visite.
Monseigneur Bernard Potvin, porte-parole des évêques de France, interrogé par Hélène Destombes. J'ajoute que les membres de la présidence des évêques de France seront reçus par le pape François ce jeudi matin. La délégation est emmenée par Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille. Dans un souci de transparence, l'archidiocèse de Chicago a décidé de publier un rapport détaillé sur les abus sexuels commis à la fin des années 90 par des membres du clergé local. Dans une lettre aux fidèles, le cardinal Francis George a assuré qu'aucun religieux impliqué dans une affaire d'abus n'était actuellement en fonction. Il ajoute que lors de son arrivée à Chicago, tous les religieux concernés étaient déjà morts ou avaient abandonné leur ministère. Il reconnaît que la publication d'un tel rapport est un acte douloureux, mais l'archidiocèse a résolu opter pour la transparence et la responsabilité vis-à-vis des autorités civiles. Jeudi, pour la première fois, le Saint-Siège, qui dispose d'un siège d'observateur permanent à l'ONU, sera entendu par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies à Genève dans le cadre de sa session entamée lundi. Il lui est demandé de s'expliquer sur les abus sexuels commis par des prêtres sur des enfants. Le Saint-Siège a déjà fait savoir début décembre qu'il n'était pas compétent pour les abus commis par des institutions particulières de l'Église qui sont soumises aux législations nationales. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies publiera ses conclusions le 5 février. En décembre, le pape François a décidé la constitution d'une commission spéciale pour la protection des mineurs dans l'Église. Ce groupe d'experts devra formuler des suggestions concernant notamment la formation des religieux et la pastorale de soutien aux victimes. Dimanche dernier, à la fin de l'Angélus, le pape François a annoncé les noms des 19 prochains cardinaux. Parmi eux, 16 électeurs âgés de moins de 80 ans. Ces nouveaux cardinaux, qui viennent de 12 pays différents, seront créés lors du consistoire du 22 février prochain. Ils sont les premiers cardinaux nommés par le pape François depuis son élection l'année dernière. Et parmi ces nouveaux cardinaux, il y a Monseigneur Chibli Langlois, évêque des Cayes. Le pape donne ainsi à Haïti son premier cardinal. La nouvelle a particulièrement touché les Haïtiens qui voit en cette nomination un symbole. Monseigneur Chibli Langlois a en effet été nommé le 12 janvier, c'est-à-dire 4 ans, jour pour jour, après le séisme dévastateur. On l'écoute.
Désormais, 12 janvier ne sera plus uniquement souvenir de la tristesse que nous avons connue, mais ce sera également souvenir de cette grande joie d'avoir le premier cardinal haïtien. Donc plein de symbolisme, et je crois que ça entre dans le message même de notre Saint-Père qui nous invite à développer la joie de l'Évangile, une joie qui est une lumière, qui est la confiance que nous avons et l'assurance même que nous avons que Dieu nous aime et que rien ne peut nous enlever cette joie. C'était vraiment une ouf de la part des Haïtiens parce que dans des échanges, on nous demande assez souvent pourquoi on n'a pas encore un cardinal en Haïti. C'est comme si c'était une attente comblée ce jour-là. C'était la grande joie un peu partout, dans toutes les églises. Et c'est la joie du peuple haïtien, parce que ce n'est pas partagé uniquement entre les catholiques, mais d'autres confessions religieuses, tout le peuple haïtien s'en réjouit de cette nomination. Donc pour eux, c'est une attention spéciale de la part du Saint-Père à l'endroit d'Haïti, surtout un pays qui connaît pas mal de difficultés, qui a beaucoup de défis à relever. Et je crois que le Saint-Père s'est montré très proche de nous autres Haïtiens, très proche de l'Église d'Haïti.
Donc ça fait 4 ans qu'il y a eu donc le séisme en Haïti. Donc quels sont selon vous donc les défis qui attendent le pays?
C'est une population population dont la majorité ne travaille pas pour gagner vraiment leur argent. Donc, sur le plan social, les familles connaissent pas mal de difficultés. Ce sont des familles qui cherchent des repères, qui veulent être guidées. Là, nous connaissons pas mal de défis à ce niveau. Disons, sur le plan politique, c'est un pays qui se cherche encore. Ensuite, sur le plan ecclésial, donc c'est une église également qui continue à se chercher. On peut dire que c'est une jeune église. Et à la tête de toutes les institutions à l'intérieur de l'église, que ce soit au niveau des diocèses, au niveau des communautés religieuses, ce sont tous des Haïtiens. Donc nous sommes en train de nous chercher, nous sommes en train de structurer cette institution pour que nous puissions réaliser la mission comme il se doit dans ce pays où nous avons pas mal de défis à relever. Donc c'est une année qui s'annonce comme une année, disons, laborieuse, où l'Église doit inviter tout le temps ses fils et ses filles à s'engager dans cette lutte pour pouvoir redonner l'espoir, pour pouvoir redonner de la joie et la joie de l'Évangile partout où nous vivons et partout où se trouvent nos frères et sœurs dans les raccoins du pays.
Monseigneur Chibli Langlois, évêque d'Écaille en Haïti, interrogé par Audrey Aradondi. Aujourd'hui, la situation a changé, mais le pays ne s'est pas redressé économiquement et il reste de nombreux problèmes. C'est ce que constate au quotidien Roselyne Paul. Elle travaille sur place pour la Fondation Francesca Rava, une ONG italienne qui aide les enfants partout dans le monde. Audrey Aradondi.
Le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter réduit Port-au-Prince, la capitale haïtienne et d'autres villes du pays en champ de ruines. Face au désastre, se met en place une solidarité internationale exceptionnelle. Des millions de dollars arrivent de partout dans le monde. Mais 4 ans après, le bilan est loin d'être satisfaisant pour Roselyne Paul.
Après le séisme, donc, il y avait beaucoup d'organisations qui sont venues ici. Mais à mon avis, vraiment, je ne vois pas grand-chose qu'ils ont fait. Et ils ont gaspillé l'argent à leur business. Donc, je dis gaspiller parce que la population vraiment n'a pas bénéficié beaucoup à tout ça.
Et même si aujourd'hui, la majorité des sinistrés a retrouvé un logement, de nouveaux bidonvilles ont vu le jour à Port-au-Prince, des zones très pauvres où règne l'insécurité.
Il y a toujours de la guerre civile entre les bandits à cause de la grande famine. Et il y a encore beaucoup de personnes qui ne vont pas à l'école. Donc, il y a beaucoup de chômage. Il y a le problème d'eau potable qui existe encore, la santé, tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de problèmes à résoudre.
Et si ces problèmes n'ont pas encore été résolus, c'est, selon Roselyne Paul, à cause d'un manque de coordination entre le gouvernement et les ONG.
Je crois que certains problèmes, premièrement, au gouvernement, ou les organisations qui n'ont pas de collaboration. Donc, on ne travaille pas en équipe. Donc, il n'y avait pas une gestion bien déterminée. Et chacun fait ce qu'il veut.
Aujourd'hui, elle affirme que le pays n'attend plus d'aide de la communauté internationale. Les bailleurs de fonds sont de toute façon mobilisés par d'autres crises humanitaires, comme en Syrie ou en Centrafrique.
Les gens, après une tragédie, donc en quelques mois après, ils oublient tous. Beaucoup de gens qui viennent, qui aident, et après quelques mois, donc on oublie. Et même jusqu'à présent, si on prend le cas des choléra, par exemple, il y a encore des personnes qui meurent, mais toutes les organisations qui étaient venues ici, ils sont déjà passés. Mais on ne peut pas toujours attendre des internationales qui vont donner de l'argent.
Pour Roselyne Paul, il y a donc une seule solution et elle est nationale.
Des nouvelles du Vatican en plus bref. Le pape François a renouvelé pour les 5 prochaines années le mandat de la commission cardinaliste de surveillance de l'IOR, Institut pour les œuvres de religion. Il a par ailleurs renouvelé sa composition. Reste en place le cardinal français Jean Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Nouvelles entrées, les archevêques de Vienne et de Toronto, l'archiprêtre de la basilique Sainte-Marie-Majeure, Mgr Santosi Abril, et le nouveau secrétaire d'État du Saint-Siège, Mgr Pietro Parolin. Le Saint-Père a confirmé la plupart des membres de la commission pontificale pour l'Amérique latine, en particulier le président, le cardinal Marc Ouellet, et le secrétaire, M. Guzman Carichiri. Il a nommé conseiller de cette commission Mgr Baldisseri, secrétaire général du Synode des évêques. La Congrégation pour les causes des saints a annoncé sa décision de contenir les coûts de ses enquêtes menées avant toute béatification ou canonisation. Le processus dure généralement de nombreuses années, avec appel à de multiples experts et des déplacements parfois coûteux. Une grille tarifaire sera instaurée dans un souci de sobriété et d'équité. La congrégation veut également éviter qu'il y ait des inégalités entre les causes. Dans les colonnes de l'Osservatore Romano, le cardinal préfet Angelo Amato a par ailleurs indiqué que le pape François souhaitait la mise en valeur de la sainteté de prêtres et de laïcs. De son côté, la Congrégation pour l'évangélisation des peuples a démenti une information publiée par la presse italienne, contrairement à ce qui a été affirmé par certains quotidiens. Paolo Oliverio, le fiscaliste arrêté pour agissement illicite dans la gestion du patrimoine des religieux camiliens, ne s'est jamais occupé des propriétés de la Congrégation vaticane. Ces conjectures sont donc dénuées de tout fondement. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie, mais je vous invite à nous rejoindre également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français.